At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Bienvenue à notre podcast Côté sombre. Je m'appelle Jennifer.
Et je suis Colin.
Je vous parle de crime.
Et je fais mon possible.
Hello!
Bonsoir, Jennifer!
Le focus, c'est pas fait ce matin.
T'as ma tasse, j'ai ta tasse.
Ah, pas grave, mais le focus, c'est pas fait.
Le tien dit « je fais mon possible ».
Et d'où Jésus?
Le mien dit « prêt, prêt, pas prêt, j'y vais ».
Comment ça va, toi?
Ça va bien! Ça va bien, merci.
Bon.
Yeah, j'ai pas beaucoup de nouvelles. Non, Jennifer, comment ça va?
Ben, ça va bien.
Tu vas bien?
Ah bien, j'avais mal à la tête tantôt, mais là, je suis correct. Je bois un petit thé. Tout bang, là.
C'est bon. C'est
j'ai
bon,
essayé
ça.
Mon nouveau rouge à lèvres. Mon brun à lèvres. C'est brun.
C'est pas super brun. C'est un petit peu brun. C'est comme un rouge brun.
En tout cas,
c'est bon.
Je voulais du brun.
Je l'aime.
Ben, merci.
Well, Jennifer.
Ouais.
Mm-hmm.
Es-tu prêt, toi?
Non.
Prêt, pas prêt? J'y vais. L'histoire d'aujourd'hui a été écrite par Michel!
Oh!
Belle Michel d'amour que
shout
j'aime
out
de
Michel.
Tout mon cœur.
Shout out.
Et l'histoire se passe à Daytona Beach.
Daytona Beach! Florida.
Florida.
La maison du Daytona 500 NASCAR Racing.
Ben, on en parle, Michel, dans son truc.
Ah ouais?
Ben oui.
Solide.
Fait que là, ben oui, je te parle de Daytona Beach. Puis quand on parlera pas de Cégepien sous-mort dans la rue, tu t'en doutes.
On parlera pas de quoi?
Cégepien sous-mort. Il n'y a pas de cégep au Canada anglais, c'est pour ça qu'il ne comprend pas.
Non!
Fait qu'on parlera pas d'étudiants sous-morts dans la rue.
Really? Parce que c'est assez commun à Daytona Beach. C'est comme la place pour Spring Break.
Daytona Beach est une ville côtière située dans le comté de Volusia, en Floride. Connue pour ses plages larges et praticables en voiture, ainsi que son célèbre circuit de course automobile, Daytona International Speedway, elle attire à la fois des touristes saisonniers, des retraités et une population locale assez diversifiée.
Mm-hmm. Une autre chose, je peux pas croire que tu peux fucking rouler sur le plage avec ton fucking char.
Ben, si, les policiers puis tout ça, ils vont en char.
I don't give a fuck. Si mon kid est en train de construire un fucking château en sable, puis un char qui s'en vient sur la plage, je vais être pissed off, moi.
Mais c'est pour ça que tu construis les châteaux de sable sur le bord de l'eau.
I don't like it.
Parce que ça prend de l'eau, du sable plus mouillé. Tu le sais, t'en fais des châteaux de sable.
On va mettre l'huile dans l'eau. C'est pas bon, ça, pour l'environnement.
Ils ont le doigt.
C'est d'Américain.
La ville compte environ 75 000 habitants répartis en quatre quartiers principaux. Beachside, proche de l'océan avec des propriétés en bord de mer, de petits motels et des immeubles d'appartements anciens ou rénovés, ambiance touristique mais avec des zones en redéveloppement. Downtown Ridgewood Corridor mélange des zones commerciales, bâtiments anciens et logements à revenus modestes. On y trouve aussi un taux de criminalité plus élevé que la moyenne nationale.
Mmh.
Puis après ça, on a LPGA Westside, les quartiers plus récents, résidentiels et plus sûrs avec une population de classe moyenne à supérieure, comprenant des développements immobiliers, des terres and golf. Puis ensuite, le quatrième, c'est le quatrième quartier principal, le South Daytona. Zone résidentielle qui abrite de nombreuses familles de travailleurs et des retraités dans des logements abordables. Alors, pour résumer, il y a quatre grands quartiers, mettons, puis c'est Beachside, Downtown Ridgewood, LPGA Westside, puis South Daytona. Bianca, elle a comme changé la page de mon texte.
On se fâche.
Le coût de la vie à Daytona est relativement bas comparé à la moyenne nationale, mais le taux de criminalité y est particulièrement élevé. Quand on y va, on va pas n'importe où, mettons. Là.
Mm.
Selon les statistiques du FBI, en 2022, les risques d'y être victime d'un crime violent ou contre la propriété étaient de 1 sur 29, soit 55 % plus élevé que la moyenne états-unienne.
Really? 1 sur 29? Oh, j'aime pas ça, moi.
Ouais. En 2022, on y a dénombré 583 plaintes pour voies de fait, 65 vols qualifiés, 55 viols et 13 meurtres. Je rappelle, c'est 75 000 habitants. C'est pas tant que ça, tu sais.
Non, that's crazy.
La probabilité d'y être victime d'un crime violent est d'environ 1 sur 103 et elle est de 1 sur 41 d'être victime d'un crime contre la propriété. Sur Reddit, j'ai lu quelques... on comprend que c'est Michel. Sur Reddit, Michel a lu quelques témoignages puis il est recommandé d'éviter Ridgewood et plusieurs sections de South Daytona. On dit cependant que Beachside et Daytona Beach Shore sont des secteurs plus sécuritaires étant donné que c'est principalement là que vont les touristes et que la police y est beaucoup plus présente pour les protéger. Daytona Beach présente des taux de criminalité considérablement supérieurs à la moyenne nationale et étatique, tant pour les crimes violents que contre les biens. Le risque global y est estimé à une chance sur 29 d'être victime d'un crime toutes catégories confondues.
Mmh.
Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces taux, entre autres le fait que très peu des habitants de Daytona ont accès à la propriété, donc moins de 40 % de la population est propriétaire d'une maison. Mais c'est tellement cher.
I mean...
Je comprends.
Oh, c'est cher. Oh, c'est cher. Oh, la vie. La vie. Mais c'est moins cher à acheter une maison en Floride qu'ici.
Ouais.
Mais c'est fou le prix d'une maison au Canada. C'est vraiment n'importe fucking quoi.
Plus j'y pense, plus je me dis, on devrait peut-être juste acheter un chalet à l'extérieur de Montréal.
Puis qu'est-ce qu'on fait avec ce chalet?
On sac notre camp les fins de semaine.
Les fins de semaine?
Hey, gang, comment expliquer à Karl qu'est-ce qu'on fait avec un chalet? Là? Monsieur, je suis OG du camping.
Non,
j'aime la nature.
Je comprends, mais c'est dans mes priorités, il y a comme numéro 1, maison. Numéro fucking 27.
27.
Chalet.
Mais non, mais c'est parce qu'on peut pas s'acheter une maison. Ça n'a pas d'allure. Fait qu'on s'achète un chalet.
Mais on va lancer un bâton dans nos rues.
Tu peux leur vendre le chalet à un moment donné quand tu l'as. Expliquer à Karl que c'est un bon investissement, un chalet.
Pas sûr.
La population n'est pas vraiment diversifiée. 50 % est blanche, 30 % afro-descendante et seulement 10 % d'origine hispanique. Puis le taux d'éducation n'est pas très élevé non plus, compte tenu des principales industries qui emploient les habitants de Daytona. Tu sais, quand c'est le tourisme, l'hôtellerie, le commerce de détail, les services et l'industrie du divertissement qui dominent l'économie, les gens n'ont pas besoin d'avoir un haut niveau d'éducation.
Mm-hmm.
Ça se reflète aussi sur le revenu médian qui est seulement de 38 000 $ USD et un chômage très élevé. Wow!
Mm-hmm.
Daytona Beach est vraiment une ville de contraste. Certains quartiers offrent une excellente qualité de vie alors que d'autres connaissent des défis socio-économiques importants. Son emplacement côtier, son héritage culturel sportif et son potentiel de développement en font une ville, dynamique, mais où il faut être attentif à l'endroit où on va parce que le risque y est bien réel. Je me fais attaquer.
Il y a bien que veut pas que tu sois concentré pantoute.
Mm-hmm.
Voleuse de vedettes.
Alors l'histoire va commencer.
OK.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Michel nous ramène au 24 décembre 2005.
Okay.
Run It de Chris Brown et Stick With You de Pussycat Dolls joue partout. Et Stacy Dittmer attend sa meilleure amie. La Quetta May Gunter pour fêter le réveillon de Noël. Cette dernière a décidé d'aller prendre un verre au Chubby's, un bar tout près, mais elle a promis de revenir sous peu. Alors, okay. Elle a dit à son amie, « Regarde, je m'en vais prendre un verre au Chubby's, je reviens. » Alors, la Quetta, que ses amis surnomment Quetta, est une femme de 45 ans qui habite Daytona depuis 1985. C'est une femme qui a eu une vie assez chaotique et désordonnée dont on ne sait pas grand-chose. On sait qu'elle a eu 5 enfants, mais qu'elle n'a maintenu aucun contact avec eux depuis plusieurs années.
Damn!
Elle a travaillé comme peintre en bâtiment et cuisinière, mais depuis un certain temps, elle est dans le mode de vie, dans un mode de vie beaucoup plus précaire. En 2005, Quetta est une travailleuse du sexe et une travailleuse journalière qui prend des petits contrats un à la fois de temps en temps.
Mmh.
Elle n'a pas assez de revenus pour se payer un logement, puis elle consomme beaucoup de drogue.
Oh boy.
Comme plusieurs personnes dans sa situation, Quetta fréquente les foyers pour personnes sans domicile fixe et dort chez des amis ou des clients quand elle le peut. Elle vit dans le quartier North Ridgewood Avenue, un des coins les plus mal famés de Daytona.
Mmh.
Stacy, sa meilleure amie, la décrit comme une femme intelligente et indépendante qui se démarque par son humour décapant et sa personnalité extravertie.
Okay.
Elle est généreuse et super impliquée dans les communautés marginalisées locales comme les autres travailleuses du sexe et les personnes en situation d'itinérance qu'elle fréquente dans le quartier. Malgré son mode de vie marginal, c'est une femme fière et solide qui a une belle influence dans sa communauté et auprès des siens. C'est spécial quand même de savoir qu'elle n'a pratiquement aucun contact avec sa famille et ses enfants, mais que tout son entourage direct l'apprécie énormément. Stacy attend Quetta jusqu'à 1h du matin. T'sais, elle lui a dit « Je vais chez Wachobies, je reviens. » Mais elle sent tout de suite qu'il y a quelque chose qui cloche avec son amie, mais elle ne déclare pas sa disparition à la police tout de suite parce que comme elle, c'est Noël, puis peut-être que finalement, quand elle boit un verre Wachobies, ça finit par divers, là, je sais pas. De toute façon, on sait malheureusement qu'une travailleuse du sexe, toxicomane, sans domicile fixe, qui vit dans un milieu où les absences soudaines sont pas inhabituelles, n'est pas très haut dans la liste de priorités de recherche pour les policiers. Fait que c'est comme ça, je disais, non. Même si j'appelle...
Puis ils sont extrêmement vulnérables.
Ben c'est ça, mais c'est pour...
Yeah.
La situation dans laquelle elle est, malheureusement, on voit ça souvent des fois, plusieurs fois, c'est par propre choix que ces personnes-là décident de sacrer leur quartier. Je veux dire... Pense-y, il n'y a rien qui te rattache au même endroit que t'es. Puis, t'as des problèmes de drogue. Fait que tu peux partir où tu veux, quand tu veux. Ben, c'est sûr qu'ils n'ont pas vraiment d'argent, mais tu comprends ce que je veux dire. Fait que, je veux dire, il faut comprendre aussi les policiers de ne pas mettre ça dans leur liste de priorité de faire une recherche tout de suite. Mais en même temps, c'est ça qui rend la chose tellement triste. Stacy, tu sais, elle dit que c'est pas le genre du tout de son ami là, de planter ses amis-là. Elle n'arrête pas de s'inquiéter de son absence. Puis à un moment donné, le 26 décembre 2005, ce matin-là, il y a un passant qui remarque dans une ruelle isolée et très peu éclairée ce qui ressemble à un corps. C'est tout près du Chubby's, le bar où Quetta est allé boire le soir de Noël, et la ruelle est souvent fréquentée par les sans-abri et les travailleuses du sexe.
OK. Ça a l'air d'une place assez rough.
Très rapidement, le gars il appelle les autorités qui découvrent le corps entièrement nu, mais avec des bas. C'est une femme en position fœtale, posée sur le sol gelé de la ruelle. Elle a été battue par une balle de calibre 40.40.
40 caliber love letter coming straight to your heart, baby.
C'est un poème que tu as récité de même.
No, Alexis on fire.
Oh. Alors, la balle a été tirée à courte distance derrière sa tête. Les enquêteurs ne remarquent aucun signe de lutte ni de vol, mais selon eux, de toute manière, il n'y avait pas grand-chose à voler à la pauvre femme. On réussit cependant à prélever des traces d'ADN sur son corps, extraites d'un échantillon de sperme.
Ew.
Si je ne me trompe pas, le sperme était dans sa bouche.
Tristesse.
Étant donné son mode de vie, les enquêteurs ne s'alarment pas tout de suite. Ça doit être un règlement de compte ou une chicane qui a dégénéré entre travailleuses du sexe, tu sais. Mais en même temps, même si c'est ça.
Non, c'est...
Tu sais, prends ça au sérieux. Là.
Come on.
Je vous rappelle qu'on est en 2005.
Mais quand même.
Non, non, je sais. Justement, je trouve ça...
C'est pas fucking 65.
T'as une bulle.
I know.
Alors, tu t'en doutes, le corps est celui de la Quetta Mae Gunter, qui est identifié rapidement grâce à ses empreintes digitales que les policiers possédaient déjà. Son corps est rapidement incinéré et ses cendres sont remis à sa meilleure amie Stacy. Elle s'assure que Quetta ne sera jamais oubliée en retournant souvent sur les lieux de découverte de son corps et en donnant plusieurs entrevues aux médias du secteur. En l'honneur de son amie, elle fait un poster avec une photo de Quetta signée de plusieurs de leurs amis du quartier qu'elle affiche sur les lieux de la découverte de son corps. Et là, elle dit « She was my confidant. I could tell her anything. She was the best friend a person could ever have. She had faults. We all have faults, but she was the bomb. »
Confidant. c'est quelqu'un que tu peux partager tes secrets le plus profond avec.
Ah, oh, j'ai dit « she was my confident ».
Yeah, confidence, c'est confiance.
Confiance, OK.
Yeah.
Well, je fais mon possible. Le 13 janvier 2006, on entend « Don't forget about us » de Mariah Carey et « My hump » de Black Eyed Peas, part 2 à la radio. Julianne Green, 34 ans, pardon, est une amie de Laquetta. Elle est d'ailleurs avec elle sur la photo du poster faite par Stacy qui a été affichée dans la ruelle en son honneur. Julie est née à Jacksonville, mais habite Daytona depuis plusieurs années. Elle a eu deux filles dans sa jeune vingtaine qui ont 11 et 14 ans, mais on ne sait pas si elle en a la garde ou si elles ont été confiées à quelqu'un d'autre. Ce qu'on sait, c'est que Julie, c'est une tête brûlée, une fille qui fait tout comme elle l'entend, tout le temps. Et là, c'est quoi ça veut dire une tête brûlée? Moi, dans ma tête, une tête brûlée...
She's a hothead.
OK.
Yeah, so c'est quelqu'un qui va réagir avant de penser.
OK, fait que, bon, c'est une tête brûlée, une fille qui fait tout comme elle l'entend, tout le temps. C'est une ancienne jardinière et toiletteuse pour chiens qui est malheureusement tombée dans la consommation. Puis là, jardinière, tu sais, c'est a gardener.
Yeah.
C'est ça, quelqu'un qui s'occupe...
Peut-être paysagiste.
Ouais, c'est ça.
Yeah.
Mais c'est ça qui arrive aussi souvent avec des victimes comme ça, malheureusement, qui habitent dans la rue ou qui n'ont plus de lien avec leur famille. C'est difficile de trouver plusieurs informations.
Mm-hmm.
Avec le temps, le crack et la coke ont pris le dessus dans sa vie, puis elle est rapidement tombée dans le travail du sexe et l'errance. Elle connaît Laquetta, elle a même été sa coloc à quelques reprises et a signé l'affiche faite par Stacy après sa mort. Julie se fait appeler Sissy par ses amis proches et tout son entourage s'entend pour dire que c'est une hustler. Le genre de... Pourquoi tu ris?
Juste le terme hustler, pour moi, c'est un peu cringe, mais whatever.
Hustler, ça veut dire genre girl boss?
Non. Souvent, si t'es un hustler, c'est quelqu'un qui va faire plein de trucs semi-louches pour faire de l'argent vite.
Ah, OK.
Yeah.
Pas girl boss.
Non. Non.
Le genre de fille tellement prête à tout pour faire de l'argent que tu dois cacher ton petit change pour pas qu'elle te fasse les poches pendant que tu regardes ailleurs ou
That's
que tu
right.
vis ton trip. J'aurais dû finir.
There
Michel, elle l'a bien expliqué.
Merci, Michel.
Ah.
Bien fait.
Le 13 janvier, elle est avec un de ses amis. Elle lui dit qu'elle va sortir quelques minutes pour passer un appel à une cabine téléphonique tout près. Elle ne sera jamais revue vivante.
Damn.
C'est le même scénario que pour Quetta. Personne ne signale sa disparition tout de suite parce que c'est pas si inhabituel. Une travailleuse du sexe, malheureusement, qui disparaît pendant quelques heures. Puis de toute façon, probablement que même si on avait signalé sa disparition, peu d'efforts auraient été faits pour la retrouver. Le lendemain matin, un ouvrier de construction qui se rend sur un chantier tout près de là remarque une forme humaine sur un chemin de terre menant à un chantier inoccupé. C'est Julie, dont le corps a été dompé sur le chemin face contre terre dans le fossé.
Puis est-ce qu'elle aussi était nue?
Tout comme son amie quelques semaines plus tôt, elle a été assassinée dans le style exécution, là,
mm-hmm.
un tir à bout portant derrière la tête avec une arme de calibre 0.40.
Yeah, 40 caliber.
C'est quoi le poème?
44 caliber love letter. Ça, c'est un 44. Je m'excuse, je me suis trompé tantôt.
Elle a été retrouvée nue, face contre terre, dans un endroit peu fréquenté.
Mm-hmm.
À la différence de Laquetta, il semble qu'on lui ait volé le peu qu'elle possédait, soit avant ou juste après son meurtre. Et comme Julie a été avec des amis juste avant sa disparition, il a été plus facile pour les enquêteurs d'estimer l'heure de sa mort. Parce qu'elle a quand même bien juste dit « je sors faire un appel puis je reviens mm-hmm. ». Tu sais, l'autre, c'était comme « ok, je m'en vais prendre un verre
mm-hmm. ».
Fait que là, tu sais pas à partir de quand dans le verre, tu sais, tout
yeah.
ça s'est passé au moment de pendant la soirée.
Yeah.
Mais là, c'est « ok, mettons, là, je dis n'importe quoi, il est 2h30, je sors faire un appel ». Il est 2h40, c'est bien pas venu. Il est 3h, tu sais.
Yeah.
Fait que ça donne un time frame bien plus précis. Là.
Yeah, yeah, yeah. Au lieu de 6h, c'est comme 6 minutes.
c'est ça. Il n'a pas été possible de prélever d'échantillons sur la scène de crime. Par contre, les enquêteurs ont trouvé des traces de pneus tout près du corps, ce qui peut vouloir dire que c'est le véhicule du tueur qui les a laissés. Rapidement, on identifie les traces de pneus. Elles proviennent d'une Ford Taurus? Taurus?
Ford Taurus.
Ou d'une Mercury Sable de 2003.
Sable.
Des chars bien ordinaires pour l'époque et les pneus étaient les pneus de série, soit ceux qui sont posés sur les véhicules neufs à l'usine. Pas de traces de sperme, mais une douille que les inspecteurs garderont précieusement.
Mm-hmm.
Le cas de Julie est particulier parce qu'il semble qu'elle sentait, un peu avant sa mort, que sa vie était en danger. Quelques jours avant de disparaître, elle a écrit une lettre à son chum qui était en prison à l'époque pour cambriolage. Dans cette lettre, elle écrit qu'elle est réveillée depuis plusieurs jours et que si quelque chose lui arrive, de demander à Smiley qui sait tout. C'est énigmatique comme message. Colin, je te laisse le lire.
Avant de la lire, si tu es réveillé pendant plusieurs jours, c'est probablement à cause de la drogue. Puis dans ces cas-là, c'est extrêmement habituel que tu vas devenir paranoïaque.
Oui, c'est vrai.
Comme irrationnellement paranoïaque. So, you know, mais je vais lire le message. Hi Mitch, you get out May 3rd. I want to go home with you.
En haut, là, Michel, elle a écrit... Tu sais, là, tu lis directement sur le papier jaune, là.
OK, yeah, parce que ça a écrit un peu
ouais, c'est
wild.
Michel, elle a écrit en haut.
Merci. Hi, Mitch. You get out March 3rd. I want to go home with you. I need help. Been up for days. Sorry about the writing. Very tired. Oh, c'est pour ça que elle a écrit. Okay. If anything happens to me, Smiley knows all. Sorry this letter's so short, but you have to know what I feel. Love you always. I want to go home and start a new life. Love you. I will write you back soon. Love, Sissy. So, bonjour, Mitch. Tu vas sortir de prison le 3 mars. Je veux aller chez nous avec toi.
3 mars ou 3 mai?
3 mars. M-A-R, c'est mars.
Ah, oh, OK.
J'ai besoin d'aide. Ça fait des jours que je suis réveillé. Désolé pour mon écriture. Je suis vraiment fatigué. S'il y a de quoi qui m'arrive, Smiley va connaître tout. Désolé que la lettre est tellement courte, mais il faut que tu saches comment je me sens. Je t'aime pour toujours. Je veux aller chez nous puis commencer une nouvelle vie avec toi. Je t'aime. Je vais t'écrire bientôt. Love, Sissy.
Merci.
De rien.
Un des amis de Julie, Rick Marcotte, portait le surnom de Smiley. Quelque temps après le meurtre de Julie, il a fait un tour en prison pour violation de probation et les enquêteurs ont profité de cette incarcération pour l'interroger. Malheureusement, ils n'ont pas pu faire un lien formel entre Smiley et Sissy. Attachée à la lettre, Julie avait mis une photo d'elle et d'une autre jeune femme à l'air très sérieux. Mm-hmm. À côté de son visage, Julie avait écrit « Find her, she can help ». L'identité de « her » n'a jamais été confirmée à ce jour.
Mais c'est weird qu'elle n'a pas inclus sa nom. Find her. C'est qui, her?
On avance au 24 février 2006. Be Without You de Mary J. Blige et Walk Away de Kelly Clarkson jouent partout sur les terrasses du Beachside. Les policiers reçoivent un appel anonyme les informant que le corps d'une femme se trouve sur un chemin de terre dans une zone boisée près de l'Interstate 95, alors près de l'autoroute 95.
Mm-hmm.
L'appel provient du téléphone public d'une station-service et l'employé a donné le signalement d'un homme et d'une femme. Ils seront éventuellement identifiés et interrogés, mais ils n'ont aucun lien avec la victime. C'était juste un couple d'amis qui prenait une marche dans le coin. La victime est une femme de 35 ans, originaire de Buffalo, New York, qui habite une petite ville collée sur Daytona Beach. C'est elle. Les avis diffèrent sur Iwana Patton, c'est son nom, même si sa famille soutient qu'elle n'a jamais exercé le travail du sexe, elle a été arrêtée pour racolage à quelques reprises. Iwana, c'est vraiment une personne appréciée et impliquée dans sa communauté. De jour, elle est infirmière dans une résidence pour personnes semi-autonomes, puis pour joindre les deux bouts, elle a tout plein de petites jobines à temps partiel. On sait aussi qu'Iwana utilisait souvent l'adresse du refuge pour personnes sans domicile fixe de Daytona comme adresse postale et qu'elle y va souvent pour relever son courrier. Comme elle y allait souvent, il semble qu'elle avait l'habitude de vagabonder et de flâner dans les environs du centre et qu'elle connaissait les victimes précédentes.
Okay.
Elle a été vue à quelques reprises chez Julie Green et il est donc tout à fait possible d'en déduire qu'elle connaissait aussi la Quetta. Suite à sa mort, plusieurs sorties médiatiques seront faites par la famille d'Iwana avec l'intention de remettre les pendules à l'heure sur la bonne personne qu'elle était. Puis là, c'est pas parce que quelqu'un est travailleur du sexe qu'il n'est pas une bonne personne.
Non.
C'est juste qu'elle est dans ce milieu-là. Puis...
Yeah, c'est une circonstance. C'est de, pour qu'elle survive, pour qu'elle peut avoir un toit.
Mais c'est ça.
Du nourriture dans...
Ou acheter dans, de la drogue, mais en même temps, c'est, yeah. T'sais, c'est un problème. Là.
Yeah.
C'est triste parce que le fait que la famille ait mis autant d'énergie à prouver qu'elle n'était pas une consommatrice de drogue ou une travailleuse du sexe démontre à quel point ces personnes sont mal considérées dans la société. C'est ça. Tant que c'était des travailleuses du sexe qui mouraient, c'était moins grave. Mais là, on parle d'une femme qui avait au moins un emploi régulier, donc d'une femme respectable. Alors là, les policiers...
Yeah, en gros, air guillemets, pour ceux qui...
Oui, parce yeah. que là, les policiers sont comme, oh non, il faut, rectifier le tir, là, tu sais. Mm-hmm. C'est vraiment triste parce que c'est exactement pour cette raison-là que les personnes marginalisées sont plus à risque de subir des violences extrêmes. Tout le monde s'en fout, ou du moins, on se dit qu'elles... l'ont un peu cherché en pratiquant le travail du sexe, en consommant de la drogue, en ayant un mode de vie marginal. Mais on s'entend que c'est pas ça que je pense, mais dans la société, c'est comme si c'était ça, du moins, qui était divulgué en 2005.
Mm-hmm.
C'est des gens moins importants, entre guillemets. C'est chien, là.
Mm-hmm. For sure. Mais je pense que même à nos jours, c'est si Jennifer est disparue... Bon, ça va être un big deal. Tout le monde va dire, oh, elle est où, Jennifer? Il faut faire tout pour trouver Jennifer. Hey,
trouvez-moi, s'il te plaît.
Oui, oui. Mais si c'est quelqu'un qui a un historique criminel qui est 30 pages de long,
puis
ils vont dire,
well,
you know.
Ouais.
Problem solved.
Le corps d'Iwana a été retrouvé entièrement nu, face contre terre, avec une balle de calibre .40 dans la tête.
Ça c'est... OK, cela, je pense qu'on parle d'un tueur en série, là.
Après le quatrième qu'on est comme... Ouais, ben...
Well, je pense qu'on est qualifié, là.
Je suis supposé dire 40 mm, je pense que oui. Hein. C'est le même modus operandi que pour les autres femmes, un meurtre opéré dans le style des exécutions, mais Iwana semble s'être défendue. Elle a plusieurs traces de lutte sur le corps et son agresseur n'a pas pu la tirer à bout portant à cause de sa résistance, probablement. Sur son corps, les enquêteurs ont pu prélever des traces de sperme dont ils ont extrait de l'ADN. On a aussi trouvé une douille qui a permis aux policiers de retracer l'arme du crime, un Smith & Wesson Sigma série VE. Quelques jours plus tard, les policiers ont trouvé sa voiture derrière une clinique d'orthophonie dans le quartier. La particularité de cette enquête, c'est qu'elle a été menée dès le départ par une seule force de police, soit celle de la municipalité de Daytona Beach. En mai 2006, il y a un nouveau chef de la police qui est embauché pour faire la lumière sur les meurtres et les disparitions qui se produisent à Daytona. Rapidement, les hommes pardon, de Mike Chitwood.
Chitwood?
C'est C-H-I-T. Chitwood.
Chitwood. Okay. C'est pas un bois de caca.
Rapidement, les hommes de Mike Chitwood lient les trois assassinats de Laquetta Gunter, Julie Green et Iwana Patton. On est rendu à trois, okay, pas quatre. Elles ont toutes eu des démêlés avec la justice à cause du travail du sexe. On croit que les trois femmes étaient en train de travailler dans la rue au moment de leur meurtre. On croit que les trois femmes ont rencontré leur meurtrier dans Ridgewood. Au moins, Julie et Iwana ont entré volontairement dans sa voiture et Laquetta a été tuée très rapidement après avoir embarqué dans la voiture de son assaillant, étant donné la proximité entre le bar où elle était allée boire et le lieu de sa mort. Les trois corps ont été retrouvés dans un secteur rapproché, dans des zones plus isolées de la vue des passants et le meurtrier a fait peu d'efforts pour camoufler les dépouilles. Je vais juste te montrer une map d'où les corps ont été retrouvés.
I mean, c'est très, très proche.
Ouais. Puis là, les dates, c'est le 26 décembre, le 14 janvier et le 24 février. Ah non, contraire, je m'excuse. 14 janvier, 24 février et puis le 26 décembre. C'est ça.
Yeah. I mean, pour ceux qui n'ont pas vu la photo, I mean, on parle de comme 6 coins de rue, là. C'est tout dans la même neighborhood.
C'est ça. Les corps des trois victimes portaient des traces d'agression sexuelle et ont été exécutés d'une seule balle dans la tête. Les balles qui ont servi au meurtre ont été liées les unes aux autres et la douille retrouvée sur les lieux du meurtre d'Iwana a permis d'en identifier l'arme. Comme les inspecteurs ont trouvé du sperme similaire sur le corps de la Quetta et d'Iwana et que des balles d'une seule et même arme ont été retrouvées sur les trois emplacements, ils en viennent rapidement à la conclusion qu'ils sont aux prises avec un tueur en série qui s'attaque aux femmes les plus vulnérables de Daytona Beach. Ces informations permettent aux profileurs de la Floride de développer un profil préliminaire du tueur. On pense qu'il s'agit d'un homme blanc, probablement marié ou en couple avec une femme qui le rend responsable de son ressentiment. Il se sentirait « castré » entre guillemets par cette femme et utiliserait les femmes qui l'assassinent comme substitut au meurtre de la femme qui lui rend la vie difficile. Dans le fond, c'est un pauvre masculiniste frustré.
Yeah, it's some cock bitch shit.
Mais ça, c'est le profil que les experts en ont fait.
Mm-hmm.
On va voir.
OK.
Il a vraisemblablement un emploi relativement payant parce qu'il peut se permettre de payer pour les services de travail du sexe assez souvent pour que ses victimes le connaissent et n'aient pas peur de lui, probablement. Dans le COPS, on voit que c'est 20$ des
That's
fois, une
it.
Pipe plus.
That's it. I mean, quand on parle d'un travailleur ou travailleuse de sexe qui fume de la crack, souvent leurs services sont offerts à une certaine rabais.
Hey, c'était quoi l'autre fois? 20$? Puis j'étais comme...
20$ pour sexe oral.
Ouais.
T'sais, on parle pas d'une escorte qui va faire, you know, 2000$ de one shot, whatever, whatever.
Non, c'est ça.
Non. So, si lui se présente puis il dit, « Ah, je vais te donner 500$ rentre dans mon char. » Ils vont dire, « Bon, oui. » Je drop tout. Ah, j'étais en route pour Chubbies, mais fuck Chubbies, let's go.
Alors, le profil, dans le fond, il dit pas grand-chose. Le meurtrier pourrait être n'importe quel homme blanc qui utilise les services d'une travailleuse du sexe. Par contre, la police répète publiquement les informations qu'elle connaît à son sujet. Il y a un Smith & Wesson de calibre 40.40. Mm-hmm. Il a conduit une Ford Taurus ou une Mercury Sable de la même année, au moins lors d'un de ces meurtres. La couleur de la voiture est probablement commune pour se fondre dans le décor. La couleur commune, c'est quoi? C'est genre noir? Je sais pas. Puis il en est probablement le propriétaire. Enfin, les policiers possèdent son profil ADN, même si ce profil ne correspond à aucun criminel fiché dans la base de données. Ça nous permet de déduire que le meurtrier a probablement jamais été arrêté. Fait que c'est pour ça aussi qu'ils pensent que c'est un monsieur tout le monde.
Right. Parce que si t'as un record criminel pis t'es reconnu pour ça, tu vas pas laisser ton fucking sperme ici pis là pis des douilles qui ont peut-être des empreintes digitales là-dessus pis whatever. Ce gars-là, il pense qu'il est assez safe, là.
C'est ça. Dès le début, les autorités policières tirent un peu dans tous les sens. Ils enquêtent sur de nombreuses personnes d'intérêt, prennent des échantillons à leur sujet pis vont même jusqu'à interroger d'autres policiers. Une femme se présente à la police en disant que son ex-mari, avec qui elle n'a plus de contact, pourrait être le meurtrier de Daytona Beach. C'est un homme atteint de schizophrénie paranoïde avec un historique de violence. Mieux encore, il lui aurait confié avoir tué une femme à bout portant.
Really?
Son ex-femme est mise sous protection policière pendant que les enquêteurs perquisitionnent Good. Chez elle à propos de son ex, mais malheureusement, l'ADN si prometteur ne sert à... qu'à le discriminer, les échantillons ne coïncident toujours pas. Ça, c'est pas lui.
OK.
Puis c'est prouvé avec l'ADN. Ensuite, les policiers enquêtent sur un homme sans domicile fixe du secteur qui s'appelle David Rich Lindsay. C'est un bénévole de longue date dans les refuges pour sans domicile fixe de Daytona Beach. D'ailleurs, au moins deux des trois victimes ont eu des contacts avec lui en ces lieux.
Mm-hmm.
L'histoire de Lindsay est très trouble. En 88, il a été reconnu coupable du meurtre de sa femme, qui l'a battu violemment et suffoqué avec un sac de plastique.
What the fuck, Jennifer?
Il a été à l'époque condamné à 19 ans de prison, mais il a été libéré en 97, soit 8 ans de détention, moins que la moitié de la sentence initiale, puis il a tué quelqu'un. Sa femme.
Ça, c'est vicieux. Étrangler quelqu'un avec un sac de plastique sur la tête, ça, c'est fucking dark.
Puis après ça, il travaille pour aider les personnes sans abri. Fait que, tu sais, c'est ça. Ils l'ont interrogé.
Yeah. Mais, tu sais, souvent des criminels qui veulent viser une certaine population vont trouver un emploi dans ce domaine. C'est comme si tu veux prendre avantage des personnes sans domicile fixe, ben, tu vas travailler quelque part où tu as accès à ça. Si tu es un fucking pédophile, tu vas travailler quelque part où tu as accès à des enfants qui sont pas supervisés par leurs parents, whatever. You know, un camp de jour, whatever, whatever.
Après sa libération, il a été suspecté dans le meurtre d'un vieillard qui a été battu et étranglé à mort en Illinois, en 2001. Dès que le corps de l'homme a été retrouvé, Lindsay a fui l'État puis a atterri à Daytona Beach. Dès juin 2006, il est arrêté pour le meurtre de 2001 et les enquêteurs de Daytona Beach profitent de l'attente de l'extradition de l'homme vers l'Illinois pour enquêter à son sujet. Mais 10 jours plus tard, les résultats d'analyse reviennent puis Lindsay est retiré de la liste des suspects. Son échantillon d'ADN ne coïncide pas avec celui trouvé sur les lieux des crimes. Les enquêteurs doivent donc encore une fois retourner à la case départ. Ils diversifient leur enquête, mais chaque fois, l'ADN contredit leur instinct. Et là, on arrive. Le 10 décembre 2007, Stacy Charlene Gage, 30 ans, et conduit la voiture qu'elle a empruntée à sa grand-mère pour aller chercher un sac de glace. Si elle écoute la radio, elle entend probablement « No One » d'Alicia Keys ou « Clumsy » de Fergie. Stacy, c'est une jeune maman de 2 enfants qui a un passé assez tumultueux. Avant d'avoir 21 ans, elle avait déjà son garçon et sa fille. Elle a abandonné l'école au secondaire. Elle a un historique de consommation de drogue dure et rush vraiment à maintenir sa vie sur les rails pour le bien-être de ses enfants. Depuis un certain temps, elle a déménagé chez sa grand-mère avec ses kids, puis ça l'aide beaucoup financièrement, puis au quotidien. Elle n'est pas connue pour avoir été travailleuse du sexe, mais les policiers croient qu'elle pourrait y avoir eu recours. Son historique de consommation de crack et de coke l'a souvent amenée à fréquenter les bas quartiers de Daytona Beach et elle est bien connue des policiers. Aussi, il semble que depuis quelques mois, elle ait recommencé à consommer. Le 10 décembre, elle emprunte le Plymouth Voyager 1998 blanc de sa grand-mère pour aller au dépanneur acheter des cossins puis de la glace. Elle promet qu'elle reviendra très rapidement. Stacy apparaît sur les vidéos des caméras de surveillance du dépanneur, mais on ne la reverra jamais ensuite.
Really? L'image est assez floue, là. C'est des vieux caméras de merde des années 2005.
2007, là.
Oh, pardon.
Différent.
Faut être précis.
Pour plusieurs, Stacy prenait des clients trouvés sur Craigslist ou d'autres sites d'annonces classés pour payer sa consommation de drogue. Elle pourrait avoir eu un rendez-vous avec un de ses clients puis aurait pu utiliser les commissions comme opportunité pour s'éclipser vite la maison. Genre, ouais, je vais aller chercher un sac de glace puis en même temps.
Puis un petit sac de coke au même temps, whatever.
Ouais, ben peut-être qu'elle essaie de se faire un client puis d'aller chercher de la drogue en même temps. Ouais, c'est pas impossible. Sa grand-mère rapporte sa disparition ainsi que celle de sa voiture dans les heures qui suivent. Le matin du 2 janvier 2008, l'officier de police du Daytona Beach Police Department est en patrouille de routine dans une zone semi-rurale. Mm-hmm. Il s'engage sur une route de terre battue, peu fréquentée, à proximité d'une église abandonnée. C'est un coin isolé, bordé d'herbes hautes, de pins et d'édifices déserts qui est souvent utilisé comme dépôt illégal de vidange. Rien ne semble bouger, mais ça pue. Puis cette odeur-là, ça m'en, elle ment pas.
J'imagine que c'est pas la poubelle qui est dompée illégalement qui pue de même.
En descendant de sa voiture, l'agent suit l'odeur jusqu'à un bosquet en bordure du terrain.
My God.
Là, il découvre le corps d'une femme complètement nue, partiellement dissimulée par la végétation en état avancé de décomposition. Ugh. Le froid a ralenti le processus, mais il est évident que le corps se trouve là depuis plusieurs semaines. Très vite, les enquêteurs de la criminelle sont appelés sur les lieux. Ils sécurisent la scène, mais constatent rapidement que l'identification immédiate est impossible. Il n'y a aucune pièce d'identité, aucun vêtement, aucun sac. Le corps semble avoir été abandonné sur place comme un déchet dans une posture qui donne l'impression qu'on s'en est débarrassé sur le fly. On ne retrouve pas de douille sur les lieux, mais les CSI découvrent, lors de l'autopsie, une blessure par balle à la tête infligée avec une arme de calibre
40 mm.
C'est ça. Le même calibre utilisé dans les 3 autres meurtres des femmes, qui est encore... Toutes les meurtres sont non résolus, encore. Là. À l'aide des registres des personnes disparues, de tests dentaires et d'empreintes digitales, les autorités identifient rapidement la victime. Stacy Charlingage, 30 ans, disparue depuis le 11 décembre 2007. Elle a été retrouvée le 2 janvier, je pense.
Mm-hmm.
Sa famille est effondrée. Sa grand-mère, Betty, avec qui elle vivait, espérait encore un retour, même si c'était improbable, elle espérait tout de même que sa petite-fille revienne. Les enquêteurs découvrent que Stacy était simplement sortie ce jour-là pour acheter un sac de glace, comme je l'ai dit tantôt. Ses enfants étaient avec la grand-maman.
Oh, c'est triste.
L'endroit où Stacy a été retrouvée, c'est à environ 5 km de chez elle. Aucun signe de lutte n'est visible. Le calibre de l'arme, le mode opératoire et le profil de la victime, femme seule, vulnérable, tuée par balle et laissée dans un milieu isolé, suggèrent qu'il pourrait s'agir de la quatrième victime du tueur en série actif depuis le début. Puis, ce gars-là, la presse, les médias l'appellent déjà le Daytona Beach Killer. Puis là, c'est pas le Gilgo Beach Killer, c'est le Daytona Beach Killer. C'est pas à la même place. Mais à l'époque, il n'y a aucune preuve ADN disponible sur le corps de Stacy. L'enquête va malheureusement pas avancer malgré une nouvelle victime au compteur. Entre 2008 et 2016, l'enquête va stagner.
8 longues années sans des nouvelles.
Mais la police va s'assurer que Laquetta, Julie, Iwana et Stacy ne sombrent pas dans l'oubli. Ils vont pas rien faire pendant 8 ans. Ils vont interroger plus de 300 suspects au fil des années. Ils vont faire
Really? 300? Damn!
Ils vont faire des apparitions dans les médias. America Most Wanted.
Shout out America's Most Wanted.
Puis ils vont modifier aussi le profil criminel du tueur. Tu sais, tu te rappelles, on était comme un genre de mari, père de famille, un homme blanc qui a une job.
Avec un bon job, blablabla. Bla, bla.
C'est ça. Il n'y a aucun... on pense qu'il s'agit d'un homme intelligent, mobile, qui pourrait avoir une formation militaire ou policière. Mais il n'y a aucun suspect qui est arrêté. En 2010 et 2014, c'est silence radio à Daytona Beach. Okay, on pense que le tueur a cessé ses activités, qu'il a déménagé ou qu'il a changé de MO.
Peut-être qu'il a été arrêté pour un autre crime puis il est en prison pour celle-là.
Ou on pense peut-être qu'il est même mort.
Peut-être.
Puis le dossier devient un cold case, là. En 2015, il y a une nouvelle technologie génétique.
Oh, ADN?
Le GED match fait son entrée. Le GED match.
OK.
C'est comme 23andMe et tout ça.
Yeah.
Fait son entrée dans les protocoles d'enquête. Le service de police de Daytona Beach envisage de recourir à cette technologie, mais il est difficile pour une si petite force de police d'accéder aux bases de données ADN de grande envergure. Les résultats tardent donc à les aider. C'est cave parce que oui, c'est un petit poste de police, mais ils ont 4 victimes qui pensent que c'est les victimes d'un tueur en série. Là.
Mm-hmm.
Fait qu'on s'en foutu de la grosseur du poste de police. En 2008 et 2016, le dossier reste donc sans avancée importante. Par contre, quand on parle de meurtre en série, on peut compter sur les web sleuths pour nous en mettre plein la vue avec les théories, souvent très pertinentes. Certaines sont un petit peu tirées par les cheveux, par contre, mais on s'entend que... C'est quoi son nom, là?
Don't fuck with cats. Ouais, yeah,
Magnotta,
yeah.
Yeah. C'est comme ça qu'il s'est fait.
Luca Magnotta. Puis la femme de Patton Oswalt, qui a découvert c'était qui le Golden State Killer.
Ah! Ouais.
Yeah.
Non, c'est ça.
Yeah.
Entre autres, il y a des théories farfelues. Là. On va noter qu'on a évoqué Eileen Wuornos, qui avait été exécutée en 2002, puis Samuel Little, qui a tué au moins 93 femmes en Floride entre les années 70 et 2005 comme suspect potentiel. Ça, c'était des théories farfelues là, de Web Sleuth.
2005 femmes? 205 femmes?
93.
C'est quand même fucking beaucoup, ça. That's cuckoo bananery.
Non, c'est débile. On a aussi fait des liens avec LISC à cause des profils des victimes qui sont très similaires. LISC, le Long Island Serial Killer, on en a parlé sur Patreon. On a fait un épisode ensemble. J'ai fait un épisode seul avec la petite bière. On a vraiment fait tous les angles de ce cas-là parce qu'on a aussi parlé de la première... OK, bon, je vais faire une petite parenthèse. La première victime qui a été retrouvée, une femme qui a été disparue qu'on cherche, pardon, une femme qui a été disparue qu'on recherchait, qui a permis de trouver les victimes du Long Island Serial Killer. On a aussi fait un cas, son histoire à elle toute seule. Je sais pas pourquoi j'oublie son nom, c'est vraiment cave. Puis on a aussi fait l'histoire. Il y a eu une autre meurtre dans la famille de cette victime-là. Puis on a couvert ce meurtre-là sur Patreon. Je veux juste voir. J'oublie son nom, puis ça me gosse. Mm. Shannon Gilbert.
There you go.
Merci pour votre patience, gang, avec moi. Fait qu'on a vraiment couvert, comme je vous dis, tous les angles de ce cas-là. Si ça vous intéresse, on l'a fait avec la petite bière. Après ça, j'ai fait un épisode toute seule. Après ça, j'ai fait un épisode avec Colin sur le meurtre de quelqu'un. Je ne veux pas trop spoiler, mais le meurtre de quelqu'un dans sa famille aussi. OK, on a aussi fait des liens avec le Long Island Serial Killer, le Gilgo Beach Killer, à cause des profils des victimes qui sont très similaires et les périodes d'activité des deux tueurs se complètent vraiment bien. Par contre, le MO là, est très différent, sans parler des lieux qui sont très éloignés. On parle de New York, puis on parle de la Floride. De plus, il n'a jamais été possible de lier les preuves physiques des deux meurtriers ensemble. Les victimes de Liz, qui étaient des travailleuses du sexe aussi. Une autre racaille de sex offender, John Littus, a été condamné en 2016 pour un meurtre, des agressions sexuelles et de la torture qu'il aurait commis dans un camping-car pendant qu'il habitait à Daytona Beach en 2015. Mais encore une fois, aucune concordance avec le MO et les preuves physiques concernant Daytona Beach Killer. Lui aussi, ses victimes, c'était des travailleuses du sexe. Les web sleuths en ont assez parlé que les policiers ont enquêté à son sujet, mais il a été retiré de la liste des suspects potentiels. Je vous rappelle qu'il y avait l'ADN, fait que c'était facile pour eux de dire. Un dernier nom a circulé, celui de Juan David Ortiz, un agent frontalier texan qui a été condamné pour avoir tué plusieurs travailleuses du sexe au Texas en 2018 parce qu'il voulait nettoyer les rues.
Shut the fuck up! Who the fuck do you think you are?
Par contre, aucun lien n'a pu être fait avec les meurtres de Daytona Beach, à part le fait que c'est un autre dégueu qui s'en est pris un groupe de personnes les plus vulnérables de la société. Le petit mémo édito de Michel, avez-vous remarqué combien de meurtres s'attaquent aux travailleuses du sexe, à quel point il est facile encore en 2025 de s'en prendre à ces hommes et à ces femmes de qui plusieurs se fichent éperdument? On avance, on est dans la nuit du 6 au 7 mars 2016, à West Palm Beach, dans les bars remplis à ras-bord à cause du Spring Break. On entend Rihanna et Drake chanter Work, Justin Bieber chanter Lose Yourself et Stressed Out de 21 Pilots. Vers 2h du matin, il y a une amie qui aperçoit Rachel B., 32 ans, marchant le long de la route dans une zone qu'elle fréquente régulièrement. Elle est entièrement habillée et son téléphone en main. Rachel, qui vit à West Palm Beach, est assistante en soins certifiés et lutte contre une dépendance à l'héroïne tout en essayant de reconstruire sa vie. Elle a suivi des traitements de méthadone à un certain moment et pratique le travail du sexe pour financer sa consommation.
Ouf!
On suppose qu'au moment où elle a été vue par son amie, elle travaillait, donc soit elle revenait d'un rendez-vous ou elle s'y rendait. Vers 8h le 7 mars, un ouvrier de chantier, pauvre gars de la construction, remarque une odeur nauséabonde dans un secteur désert à plusieurs kilomètres du lieu où Rachel a été vue pour la dernière fois. À environ 15 mètres de la route, il découvre un corps complètement nu, laissé direct sur le sol, aucun vêtement ni téléphone ne s'y trouve. Le corps est en très mauvais état, il n'est pas possible d'identifier la victime que les policiers emmènent directement pour une autopsie.
God damn it.
Rapidement, à l'aide des empreintes digitales et de son dossier médical, on identifie Rachel B. comme étant la victime de ce meurtre très violent. L'autopsie révèle que Rachel a été étranglée.
Oh, pas de douille de 40 caliber.
Qu'elle présente des fractures sévères à la mâchoire, des dents cassées et des lésions défensives aux bras et aux mains, signifiant qu'elle a combattu avec détermination. Des traces d'ADN masculin sont collectées, notamment sous sa main gauche, et c'est ce qui va tout changer dans la suite de l'enquête.
OK.
Quelques heures après la découverte du corps, les services de police adressent un communiqué. Rachel Elizabeth Bay, 32 ans, morte après une agression violente la nuit précédant sa disparition. La police admet qu'elle ne sait pas comment Rachel et l'agresseur se sont rencontrés ni pourquoi son téléphone et ses vêtements manquaient sur place. en 2016. On s'entend que les avancées technologiques en ADN sont rendues très pointues. On peut isoler des éléments très spécifiques à partir d'un minuscule échantillon. Mm-hmm. Des analyses ADN permettent d'obtenir un profil complet à partir du sperme retrouvé sur Rachel. Puis en décembre 2016, bingo.
Final fucking man. Jeez Louise, Jennifer.
Les enquêteurs établissent une correspondance dans le CODIS et pas n'importe quelle. Ils font le lien avec des échantillons extraits des corps de Laquetta Gunter et Julie Green, deux victimes de Daytona Beach. Mm-hmm. Avec la preuve balistique comme preuve physique, le meurtre d'Iwana Patton est également lié aux trois autres.
OK.
Pendant l'été et l'automne 2017, les policiers lancent l'enquête en généalogie ADN pour identifier le suspect, pardon, via GED Match et d'autres bases de données publiques, mais c'est long, c'est vraiment long. C'est en septembre 2019.
Ouf.
Juste avant la COVID. Grâce à la généalogie génétique, les enquêteurs identifient finalement le douchebag de la semaine.
Pipion.
Robert Tyrone Hayes.
Hayes.
Un résident de West Palm Beach qui a vécu à Daytona Beach en 2006. Le 13 septembre, une équipe de surveillance observe Hayes jetant un mégot de cigarette pendant qu'il attendait l'autobus. Il est rentré dans l'autobus, les policiers se sont faufilés pour récupérer son mégot de cigarette.
Je voulais dire tantôt qu'à ce point-là, il était capable d'avoir un échantillon de ADN complet d'un mégot de cigarette. Wow. Prémonition.
Tantôt, on parlait du Long Island Serial Killer. Ceux qui ne connaissent pas, ils ont retrouvé son ADN parce que justement, il l'avait à l'œil à un moment donné. Puis le gars, il était au Times Square. Il était sur son heure de break. Il mangeait son lunch. Puis il a jeté sa croûte de pizza. Puis les policiers sont allés le ramasser. Puis c'est comme ça qu'ils l'ont identifié parce que le gars ne mangeait pas ses fucking croûtes. Le 15 septembre, Hayes est arrêté chez lui pour le meurtre de Rachel B. Enfin, puis là, je veux juste vous rappeler qu'au début, il disait c'est un père de famille blanc, vraiment pas. Robert, il est noir, c'est pas un homme marié, c'est pas. Tu sais, il y avait. Je veux dire, on peut pas en vouloir aux policiers, mais il y avait zéro le bon profil. Des fois, ils ont un profil exact, là. C'est.
Yeah, c'est comme.
Wow.
C'est fou, c'est surprenant comment c'est accurate.
Je me rappelle d'un cas qu'on avait couvert à un moment donné où le gars, il était comme « Ah, ce tueur-là, c'est le genre d'avoir ce type de lunettes-là. » Puis il l'avait dessiné, puis c'était vraiment le même type de lunettes. Real, en tout cas, des fois, on s'en coche. Mm-hmm. Les analyses ADN faites après son arrestation révèlent une correspondance presque parfaite entre le profil ADN de Hayes et ceux obtenus sur Rachel B. ainsi que sur les autres victimes. Mm-hmm. Les preuves balistiques sont cohérentes avec le modèle d'une arme achetée par Hayes en 2005, qui devient ainsi le suspect principal de ces meurtres, là, bien que le crime contre Rachel ait été l'élément déclencheur et la conclusion de cette affaire. Mmh. En février et mars 2022, Hayes doit affronter la justice pour les trois meurtres de Daytona Beach. C'est un procès rapide qui fait que le 22 février 2022, il est reconnu coupable de trois meurtres avec préméditation, donc pour Laquetta Gunter, Julie Green et Iwana Patton. Mmh. Le 2 mars 2022, il est condamné à trois peines consécutives à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.
Pipi, hein?
Comme les cas de Stacy Gage et de Rachel B. sont différents, les poursuites n'ont pas lieu en même temps. D'ailleurs, on attend toujours en ce moment de savoir à quel moment les procès auront lieu. Hayes pourrait être condamné à la peine de mort parce qu'en Floride, c'est toujours une éventualité. Cette douchebag-là, il est né le 12 mars 82 à West Palm Beach, en Floride. C'est le quatrième enfant de sa famille. Il y a un père qui a été assassiné pas longtemps après sa naissance. Il n'a pas eu une enfance facile. Je vais passer vite sa bio parce qu'on se fout de lui, mais il s'est fait violenter, il s'est fait agresser sexuellement, il s'est fait intimider à l'école. Il avait une personnalité atypique. On va peut-être soupçonner plus tard qu'il y avait un TSA, trouble du spectre de l'autisme, mais il n'y a rien de confirmé. Vers 18 ans, il est allé à l'université à Daytona Beach. Il a gradué en 2006, fait qu'il a fait les meurtres pendant qu'il était à l'université. Puis, il a eu un baccalauréat en justice criminelle.
Really? Mm-hmm. So, au moins dans le profil des polices, des enquêteurs.
Puis, il a étudié la criminologie puis le comportement des tueurs en série. Là.
That's it, parce qu'eux, ils soupçonnaient qu'il y avait une formation soit policière ou militaire. So, c'est pas très loin.
On le surnommait comme. On le. pardon, on disait que c'était un bon camarade, amical, drôle. Il avait une voix spéciale, fait qu'on le surnommait Squeaky. Il était apprécié des autres étudiants. Il n'y a vraiment pas le profil, comme je disais, là. Puis on sait aussi que dans les années 2000, il a été en couple puis qu'il a eu une fille, mais le couple n'a pas duré. Au moment de son arrestation en 2019, il était avec une autre femme. Il y avait eu un autre bébé. Il y avait à peine quelques mois, le bébé qu'il avait eu. Apparemment, ses voisins le décrivaient comme un homme poli, serviable, normal, entre guillemets, un papa impliqué. Il y a eu quelques boulots après ses études, comme serveur cuisinier, mais rien de stable. Il a même essayé d'ouvrir sa business de comptoir alimentaire à un moment donné, mais ça n'a pas fonctionné. Fait qu'il menait vraiment une double vie. Pendant son procès, ses avocats ont souligné qu'il a eu un traumatisme crânien pendant son adolescence, qu'il souffrait d'un TSA potentiel, encore une fois, j'en ai parlé tantôt. Bon, c'est une histoire vraiment triste parce que les femmes qui sont mortes ont été assassinées par un homme qui les a prises pour des victimes jetables, comme des femmes sans réelle valeur, sinon comme des objets qui permettent d'assouvir ses bas instincts avant d'être exécutés puis de domper sur le bord du chemin comme des vulgaires vidanges, man.
Wesh.
La séquence des événements qui se déroule sur plus d'une dizaine d'années montre comment une percée en technologie ADN a permis de relier des meurtres commis 10 ans plus tôt à un suspect identifié par une généalogie génétique de pointe. Le nom de Rachel B. est maintenant connu de tous, non seulement pour sa mémoire, mais aussi comme élément déclencheur de la résolution de cold case vieux d'une décennie. Et les meurtres du Daytona Beach Killer nous démontrent que sous des apparences de ville de party où tout est permis, se cachent souvent des prédateurs terribles qui n'attendent qu'une minute d'inattention pour s'en prendre aux plus vulnérables. C'était ça l'histoire d'aujourd'hui.
God damn it, Michelle!
Je vais vous lire les sources rapidement. Springfield News Sun, Palm Beach Post, Miami Herald, Mail Archives, Washington Times, WCTV Unresolved, Find a Grave, Odd Stop, puis moi, j'avais This is Monster sur YouTube.
Damn.
Ouais. On vous aime, gang. Merci d'avoir écouté cette longue histoire, mais c'est Michel qui m'a dit hey, « Donne-moi un autre cas de tueur en série, j'aime ça. »
Voilà!
C'est elle.
Ask and you shall receive. Merci de nous joindre encore. Si vous pouvez me faire un grand faveur, suivez-nous sur les réseaux sociaux, soit Instagram, TikTok, Facebook, whatever. Si tu sens encore liste des réseaux sociaux, c'est correct. Partagez le podcast avec un ami. Dis, hey, j'ai écouté quelque chose de très intéressant récemment. Je pense que tu aimerais ça. Check bien côté sombre. C'est le fun. C'est gratuit. Un épisode à toutes les semaines. Sauf des fois qu'on est en vacances où on va prendre peut-être une semaine de congé, mais...
C'est plutôt rare. Là, cette année, déjà... Ben non, c'est la fin de l'année, c'est ça. En tout cas, on a pris plus de vacances en un mois qu'on a pris en genre 3 ans. Fait que c'est pas notre habitude. Mais c'est bien correct. Faut écouter notre corps. Gang, on vous aime, on doit vous laisser. Faut aller chercher Bébécito à la garderie, là, parce que sinon...
Puis aller chez Costco, manger des échantillons.
Bye!
Bye!